Lecture dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 5, les versets 27 à 39. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi assis au lieu des péages. Il lui dit, « Suis-moi !» Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Ils lui dirent, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Il leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. Amen.
Le peintre Picasso dit un jour, on me tient pour un révolutionnaire, pourtant je m'inspire de formes qui plongent dans la nuit des temps. Venant d'un artiste considéré comme éminemment moderne à son époque, cette remarque est étonnante. Elle combat en tout cas l'impression ordinaire qu'on se fait de la nouveauté, puisque d'après Picasso, la nouveauté procéderait non pas de la dernière mode, mais du retour aux origines. Quel lien entre Picasso et la Bible, me direz-vous. Alors je voudrais placer au cœur de ma réflexion ce passage de l'Évangile qui dit « Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon le vin nouveau fait craquer les outres. Il se répand et les outres sont perdues, mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. » Personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit « le vieux est meilleur ». Alors nous qui sommes vieux, vous voyez, on est meilleur. À qui s'adresse cette parabole énigmatique? C'est dans la maison de Matthieu que se passe la scène. Il a appelé cet employé de l'administration romaine pour en faire son disciple et qui deviendra, dit-on, le premier évangéliste, Matthieu. Et maintenant, Matthieu reçoit Jésus chez lui. Il organise un grand repas auquel il a convié beaucoup de monde, des amis, des collègues de travail. Il est percepteur d'impôts. D'ailleurs, le percepteur d'impôts est très mal vu parce qu'il travaillait pour les Romains, mais aussi ils étaient mal considérés parce que souvent malhonnêtes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, un percepteur d'impôt se payait lui-même sur l'impôt qu'il percevait. Et selon la coutume orientale, il y avait aussi ceux qui sont venus, mais qui n'étaient pas invités pour assister au festin. Et dans ce repas, il y avait des lettrés de la communauté des pharisiens, c'est-à-dire des juifs très pieux et très stricts. Alors, que peuvent-ils penser à la vue de ce curieux spectacle, les pharisiens ? Jésus, partageant le repas avec des pécheurs notoires, ignorant ostensiblement les obligations du jeûne et de la prière. Sans gêne particulière d'ailleurs, sans rien qui le distingue de ses convives qui sont moralement douteux. Ils pensent, les pharisiens, que son attitude, l'attitude de Jésus, est incompréhensible et inacceptable. Il est incompréhensible que quelqu'un qui se prétend prophète, recruté des fidèles, fasse preuve d'un tel manque de discernement spirituel en se commettant avec une humanité si peu recommandable. Il est inacceptable qu'un prédicateur du royaume de Dieu, un maître en Écriture sainte, un connaisseur de la tradition la plus sacrée d'Israël, puisse mépriser ouvertement les rites et les usages indispensables au bon ordre de la vie religieuse. Voilà ce que pensent les pharisiens. Et je voudrais m'empresser d'ajouter rien que de très sensé et de très légitime. À leur place, nous aurions réagi peut-être de même. La soi-disant malveillance ou de l'hypocrisie des pharisiens n'explique rien. Au contraire, à l'époque, les pharisiens ont pour eux le prestige et l'autorité morale. D'abord, sans les pharisiens, nous ne connaîtrions vraisemblablement pas la Bible sous sa forme actuelle. Ces lettrés, ces scribes se sont sentis en charge de la transmission scrupuleuse du patrimoine spirituel qui donne sens à l'aventure d'Israël. Ensuite, sans les pharisiens, Israël aurait sans doute perdu son âme. Dans les périodes de décadence politique, culturelle, religieuse, ils ont maintenu l'identité juive au prix parfois d'un courage physique impressionnant. Ils ont lutté avec acharnement pour ramener leurs coreligionnaires à la loi de Dieu. Les pharisiens ont été de ces hommes qui ont lutté de toute leur âme contre la puissance de l'oubli. Alors je me suis dit, puisque ces pharisiens, ce sont ces hommes-là, peut-on croire que Jésus s'amuse à traiter ces gens de vieilles badernes, accrochées à une Torah désormais dépassée, dans laquelle on ne peut songer à verser le vin nouveau de l'Évangile? Alors même que leur étonnement, l'étonnement de ces pharisiens, est légitime. Pour ma part, je suis convaincu que jamais le Jésus de l'histoire ne se serait laissé aller à un mépris aussi facile. Lui qui déclare « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. » Alors où est le problème ? Le problème, il est ailleurs. Ces pharisiens, ces scribes, ces lettrés sont certes des gens pieux, honnêtes, seulement malgré leur mérite éminents, incontestables, ils ont tendance à s'autoproclamer seuls interprètes de la volonté de Dieu. Pour le petit peuple, ils sont ceux par lesquels il faut obligatoirement passer pour avoir accès à la promesse. Et c'est là le problème. Il arrive souvent qu'en voulant trop bien faire, on fasse trop, on en rajoute. Les pharisiens ont péché par excès de zèle. Ils ont inventé des rites supplémentaires, rajouté des obligations. Bref, ils ont tissé autour de l'antique promesse, qui se suffit elle-même, un réseau compliqué de nouveautés. Car les jeûnes et les prières dont parle l'Évangile et que Jésus ignore superbement ne sont pas des prescriptions de la loi. Ce sont au sens strict des nouveautés. Après tout, nous le savons, il y a dans la piété, il y a des modes comme ailleurs. Le meilleur exemple nous est donné dans la discussion même par l'évocation des disciples de Jean le Baptiste. Voilà une communauté très récente, nouvelle, en transit spirituel pourrait-on dire, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'empresse de multiplier les rites et les obligations. Qu'est-ce qui est ancien? Qu'est-ce qui est nouveau? Le problème est ici que la promesse de Dieu, à savoir finalement la promesse de sa présence auprès de tous, quel qu'il soit, et quelle que soit sa situation, cette promesse merveilleuse n'a pas changé. Elle demeure comme Dieu même. Seulement, elle est ensevelie sous des couches superposées de dévotion humaine, ce qu'on appelle justement les traditions. On fait ça par tradition et non pas par foi. Les traditions qui favorisent le conformisme, les traditions qui confisquent ainsi le droit le plus intimement inviolable de chacun, le droit à rencontrer Dieu. Les traditions qui aboutissent à faire de cette rencontre avec Dieu le privilège de quelques élus, alors qu'ils ont droit, en fait, pour tous, mais aussi les autres, les mal vus, les laissés pour compte, les incrédules, les païens. Qu'importe, tout est accessible à Dieu. Alors comme Picasso, Jésus aurait été fondé à dire « On me tient pour un dangereux novateur, pourtant j'obéis à une promesse qui remonte à la nuit des temps. Personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit « Le vieux est meilleur. » Et il y a déjà dans l'assemblée quelques spécialistes vinicoles qui peuvent confirmer cela. Que nul d'entre nous ne dise « Je n'ai pas besoin de leçons » sous prétexte que désormais nous vivons dans le temps de l'Église et que ce sont de vieilles histoires. Notre élan vers Dieu n'est-il pas constamment freiné par toutes sortes d'obstacles très légitimes mais inutiles? Tant que les hommes seront des hommes, le problème se posera. Il se pose pour chacun personnellement. On passe son temps à se faire des idées sur Dieu, des idées restrictives, et cela influence notre foi. Ou encore, on se fait des idées sur ce que devrait être un chrétien idéal. C'est le même problème qui se pose pour l'Église, sujette comme le reste aux effets de la mode. Et avant d'introduire une nouveauté, demandons-nous si cette nouveauté ne risque pas d'entraver la simplicité de ce que nous voulons faire. Les traditions à la place de la ferveur, les rites à la place de la vie intérieure, les habitudes à la place du mouvement de l'esprit. Toutes ces questions se posent. Qu'est-ce qui est ancien et qu'est-ce qui est nouveau? Voyez, le dimanche, quand on se dit sur quel texte je vais prêcher et que ce texte s'enracine dans une réalité qui soit la nôtre, m'est venu ce texte à l'esprit parce que c'est ce que je vis, c'est ce que vit notre Église. Qu'est-ce qui est ancien, qu'est-ce qui est nouveau? Est-ce que ce qui est ancien, c'est notre tradition? Est-ce que ce qui est nouveau, c'est ce qu'il y a derrière mon dos? Il y a deux espaces dans cette Église. Un espace qui se dit nouveau, un espace qui se dit ancien, lequel des deux est pertinent? Est-ce un morceau de tissu neuf qu'on a voulu broder dans de l'ancien ou est-ce que c'est de l'ancien qu'on a voulu broder dans du nouveau? Vous voyez, les questions qui traversent notre temps et notre réalité se retrouvent et trouvent aussi leur source d'inspiration dans l'Évangile. Ce lieu, qu'il soit ancien ou nouveau, est un lieu où l'Église a voulu que la parole puisse nous relier et établir le lien avec Dieu. Dieu qui règne en nous et hors de nous, parce que spontanément nous ne sommes pas en contact avec ce royaume et que nous avons besoin d'être guidés. C'est le lieu de la prédication, c'est le lieu du partage des Écritures. Et cette communion, nous en savons désormais le chemin, semblable peut-être à celle des pharisiens qui connaissaient la promesse. Mais il y a une condition très importante. Il faut prendre la peine de vérifier que ce chemin ne soit pas, pour nous-mêmes ou pour les autres, obstrué par quelques obstacles inédits. L'ancien, le nouveau, c'est des petits problèmes auxquels nous sommes tous confrontés. Et il y a deux manières de voir l'avenir. Vous savez, dans une société où on craint l'avenir, on dit à ses enfants, tu feras comme ton père. Et une société qui parie sur l'avenir, on dit à ses enfants, tu feras mieux que ton père. Ça ne veut pas dire une rupture, il y a une continuité, mais aussi un horizon plus large, nouveau, qu'il nous faut ouvrir. Alors, le retour aux sources, le pèlerinage intérieur jusqu'à la voix de Jésus, qui par-delà les siècles d'ailleurs, parle à chacun, dit à chacun de nous, je suis là, dans ce qui est vieux comme dans ce qui est neuf. L'important c'est que ta joie soit grande. Et cette joie nous rend capables de triompher de n'importe quel obstacle. Même parfois lorsque nous sommes un peu perturbés dans nos certitudes, dans nos convictions, la joie nous permet de tenir le cap. Bientôt, dans un mois, Maurice, dans un mois, les vendanges. Donc le vin nouveau, dans un mois et demi, ça dépend du temps. Donc le vin nouveau arrive, le vieux vin est déjà là. Qu'est-ce que nous allons servir à ceux que nous accueillons chez nous? Je suis sûr et certain que ce qui est important, ce n'est pas qu'il soit vieux ou nouveau, mais qu'il soit bon. Que le Seigneur nous donne toujours de partager ce qu'il y a de bon en nous avec les autres, car c'est de la bonté que vit notre monde. Et tout à l'heure, mon collègue me disait, oui, je reviens à ma communauté francophone, parce qu'il y a liberté, égalité et surtout, surtout, fraternité. Notre Église nourrit ce sens de la fraternité. Amen.